Et ce matin, on va commencer notre série 3 en 1. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et on va continuer, on va poursuivre cette série durant tout l'été. Et notre objectif, ce sera de mieux connaître Dieu, de mieux apprendre à le découvrir, de mieux discerner vraiment qui il est afin d'améliorer notre relation avec lui. Et pour aujourd'hui, j'avais à cœur de vous parler d'un sujet qui est actuel et qui me semble être assez pertinent. Et tellement pertinent que je vais l'aborder non seulement ce dimanche, mais aussi le dimanche prochain. Donc n'oubliez pas de vous inscrire, n'oubliez pas de venir la semaine prochaine parce que ce sera la partie 2 de ce message. Et le titre de mon message, Découvrir Dieu dans nos transitions. Je pense qu'il s'agit d'un sujet important aujourd'hui parce qu'on est tous en transition, nous vivons tous une transition. Mais pour comprendre ce que c'est la transition, j'ai voulu vraiment étudier l'étymologie de ce mot. Et ça vient du latin, et pardonnez-moi peut-être mon faible niveau latin, je vais essayer de le dire avec l'accent italien, le pauvre accent italien que j'ai, mais ça vient du latin « transire ». Je m'attendais à des acclamations, mais c'est pas grave, je vais essayer de m'améliorer, merci beaucoup. « Transire », ça signifie « passer d'un lieu à un autre », passer d'un état, d'une situation, d'un sentiment à un autre. Et quand on étudie le mot « transition », c'est quelque chose qui est actif, ce n'est pas quelque chose qui est passif. La transition, c'est aller au-delà de ce qu'on connaît. C'est une liaison entre notre présent connu et notre avenir inconnu. La transition, c'est ce moment où on vient monter une marche, oh je m'entends, c'est bizarre, on monte une marche et on va vers l'avant, on va vers quelque chose qui est le mieux, on va vers quelque chose qui est bon pour nous. Mais en même temps, on est dans une situation d'équilibre, où c'est une situation qui est délicate, on va connaître un moment d'inconfort. C'est ça la transition. C'est une situation de déséquilibre. On va sortir de notre zone de confort pour aller vers l'inconnu. Et on entend souvent parler aujourd'hui de la transition écologique, où on essaie de changer notre façon de consommer, notre façon de voir les choses pour préserver notre environnement. On vit actuellement une transition à cause de la situation de la Covid, où toute notre vie a été chamboulée. On a vécu une transition dès que la Covid est arrivée pour essayer de s'habituer un petit peu. Là, on est en train de vivre une transition encore parce qu'on est en train de petit à petit de sortir de la Covid. Donc, on est en train de voir comment va prendre place notre vie à l'avenir. On vit des transitions aussi en couple. On passe de l'état de célibataire à marié, une transition heureuse, mais aussi des transitions quand on va connaître un deuil ou un divorce, c'est une transition qui est plus douloureuse. On va connaître des transitions avec les enfants, quand deux parents ont un bébé, c'est une transition, et on le voit sous les cernes qu'ils ont sur le visage. On se dit, ok, ton bébé est en transition en ce moment. Et puis ce bébé va devenir un enfant, il va vivre une transition. Et puis, avant de passer à l'étape adulte, il va passer par la transition de l'adolescence. Et combien c'est que cette transition peut être longue, douloureuse, mes parents peuvent en témoigner. Mais aussi, on vit actuellement une transition d'église, une transition qui est pastorale. C'est une situation dans laquelle on est tous ce matin, aussi bien vous que nous avec Julie. Parce que tout change pour vous, mais tout change pour nous aussi. On doit s'acclimater, on vit des nouveautés. On est tous en transition ce matin. Et j'ai choisi un texte qui se trouve en Josué, au chapitre 1, et on va lire ensemble quelques versets. Au verset 1 de Josué, au chapitre 1, il est écrit « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Noun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate et tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Amen. Et ce matin, nous allons étudier deux points. Nous allons chercher à découvrir Dieu de deux façons. On va découvrir d'abord Dieu dans le deuil de nos transitions, puis ensuite le Dieu qui nous donne espoir dans nos transitions. Et mon premier point, découvrir le Dieu qui connaît les deuils de nos transitions. Il faut comprendre le contexte du passage que nous venons de lire. Le peuple vient de perdre Moïse. Le peuple vient de perdre son leader, celui qui l'a fait sortir d'Égypte. C'est lui qui les a guidés pendant 40 années dans le désert. C'est lui qui parlait face à face avec Dieu. C'est lui qui leur a donné les commandements. Et il vient de mourir. Et ils sont actuellement en période de deuil. Juste avant notre passage de Josué, le livre de Deutéronome. Et le Deutéronome se termine par un des versets où est-ce qu'il est écrit en Deutéronome 34 au verset 8. Les Israélites pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab. Les spécialistes supposent que Dieu est intervenu auprès de Josué après cette période de 30 jours de deuil. Il faut comprendre ce matin que nos transitions nous emmènent parfois dans un état de deuil. Le fait de voir notre situation changer, de voir notre vie évoluer, va nous amener à une période de deuil qui sera plus ou moins longue, plus ou moins importante selon les personnes, selon les individus. On va vivre par exemple un deuil lorsqu'on va connaître un licenciement. On va connaître même un deuil quand on passe de célibataire ou fiancé à marié. C'est un deuil de laisser derrière notre vie de célibataire. On va connaître un deuil quand les enfants grandissent. Moi, personnellement, j'ai vécu un deuil quand nous sommes rentrés dans la pandémie parce que toute la vie que je connaissais a été mise sur pause et j'ai dû faire un deuil à ce niveau-là. Et on va connaître aussi un deuil lorsqu'il y a un changement de pasteur. Dieu, parfaitement conscient de ce deuil, il n'est pas dépassé par nos émotions. Et parce qu'il sait que nous allons souffrir, il va nous donner le temps qui est adéquat. Il va nous donner le temps parfait pour qu'on puisse se remettre émotionnellement. Parce qu'à l'époque, il fallait 7 jours pour que le deuil se fasse. Or ici, on vient de lire que le peuple a eu 30 jours de deuil, parce que Dieu savait parfaitement que le peuple avait besoin de plus que 7 jours. Il leur fallait 30 jours pour s'en remettre émotionnellement. Et parce que Dieu sait nos besoins, nous pouvons être honnêtes avec lui. Ça ne sert à rien de lui cacher ce qui se passe en nous. On peut être honnête parce qu'il est ce Père qui se soucie réellement de nous. Le psaume 56 au verset 9 nous dit « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre de vie ?» Dieu recueille chacune de nos larmes. Quand on vit un deuil, quand on vit une souffrance, quand on vit quelque chose qui est cliqué, Dieu porte attention à chacune de nos larmes. Il y a différentes façons de passer au travers du deuil. Mais j'aime beaucoup ce que John Piper a dit au sujet du deuil. Il a écrit « De temps en temps, pleurez profondément sur la vie que vous espériez. Faites le deuil de la perte. Ressentez la douleur. Puis, lavez-vous votre visage. Faites confiance à Dieu et embrassez la vie qu'il vous a donnée. » Autrement dit, une des clés, hein, parce qu'il y a tellement de clés pour passer un deuil, mais une des clés pour passer un deuil, c'est admettre sa douleur, reconnaître sa douleur, accepter ce qui vient de se passer, avoir confiance en Dieu et pour trouver en lui la joie et la gratitude. Et puis même, j'ajouterai un quatrième, avoir des amis sur qui compter, avoir des personnes sur qui compter, sur qui s'appuyer, à qui prier, à qui se confier. Billy Graham a écrit aussi ceci, « Les Écritures considèrent le deuil comme une partie normale du processus de vie. La foi nous donne le pouvoir de traverser le chagrin et non de l'éviter. » Et j'aime tellement ce que Billy Graham a dit, parce que bien trop souvent on a entendu qu'un chrétien ne peut pas être triste. Un chrétien n'a pas le droit d'être malheureux. Parce que quand on voit les larmes de la personne, on dit « Mais Elle est où ta foi? Elle est où ta foi? Or, la foi nous aide à traverser cette épreuve, pas à l'éviter. Elle nous aide juste à passer par les larmes, par la souffrance, par le deuil, mais elle nous donne l'espoir que quelque chose de meilleur se cache derrière. Nous avons vécu un deuil, Julie et moi, quand on est arrivé au Québec. Ça a été vraiment compliqué. Il y a 3 ans, quand on a tout quitté, nous avons quitté notre famille, nos amis, notre situation financière, notre sécurité surtout financière, nos proches, tout ce qu'on connaissait, tout ça, on a tout quitté, puis on arrive au Québec. Et moi, je suis arrivé juste comme un garçon innocent, tout content, me dire « ça va être cool, ça va être génial ». Pas vraiment. Les premières semaines, les premiers mois ont été vraiment, vraiment compliqués. Les premiers jours même, on ne pouvait pas se parler avec Julie sans s'agresser. Il y avait quelque chose en nous qui se passait. On était toujours tendus sur les nerfs. On avait un appartement à Montréal où on avait juste 2 chaises, une table basse, un matelas par terre et un frigo. Bon, pour commencer, c'était un peu triste, mais avec ça pour commencer. Et le bruit du frigo, mes amis.
Oui, mais il fallait le débrancher.
Je ne pouvais pas. Le bruit du frigo, c'était un bruit. Je suis sûr que c'était un bruit normal, mais j'étais tellement tiraillé dans mes émotions que je me suis vu plusieurs fois prendre le frigo et le jeter par la fenêtre. Après, c'était impossible à réaliser, hein, vu ma force d'Hercule, mais j'étais tellement émotionnellement touché et impacté que tout me mettait en colère, que tout changement venait me compter, et je n'aimais pas ça. Jusqu'à ce qu'on vienne me dire « Florian, tu es en train de vivre un deuil ». Et là, ça a fait un tilt dans ma tête. Je suis comme « Oh, ok ». Et j'ai commencé à admettre ma douleur, à admettre, ok, je vis un deuil. Je commence à l'accepter et à mettre ma confiance et ma foi en Dieu. Ce n'est pas pour autant que ça a été facile par la suite. Il y a eu des larmes, il y a eu encore des moments où c'était dur émotionnellement, mais un pas à la fois, un jour après l'autre, Dieu a commencé à restaurer, à guérir cette saison de deuil. Nous pouvons avoir confiance en Dieu, parce qu'il connaît nos pleurs, il connaît nos larmes. N'ayons pas peur d'aller lui donner ses larmes. Même Jésus connaît nos souffrances. Jésus est passé aussi par cet état de tristesse, de pleurs. On connaît souvent le verset Jean 3, 16, on le connaît par cœur, mais il y a un des passages que j'aime beaucoup, parce que c'est le verset le plus court. Jean 11, 35, Jésus pleura. Simple, sobre, efficace. Jésus a pleuré parce que un de ses amis venait de mourir. Jésus a connu le deuil. Alors, si Jésus a pleuré pour son ami dans une période de deuil, nous pouvons pleurer aussi sans culpabilité à lui parce qu'il connaît notre souffrance. Mais la transition n'amène pas que la tristesse. La transition n'amène pas que du malheur. Et ça va être mon deuxième point, découvrir le Dieu qui nous donne espoir. La transition, certes, ça implique un deuil, ça implique une période qui sera compliquée émotionnellement, mais ça annonce quelque chose de nouveau. Ça annonce un nouveau départ, ça annonce une bonne nouvelle, ça annonce un nouvel espoir qu'on peut trouver seulement en Dieu. Quand on reprend notre texte au début, Dieu arrive avec un nouveau projet pour Josué. Dieu arrive avec un nouveau projet pour son peuple. Il ne veut pas les laisser sans espoir, sans objectif, dans le désert, à tourner en rond ou juste à attendre avec leur tente. Non, il ne veut pas les laisser dans ce désert. Il ne veut pas les laisser dans ce deuil. J'aime beaucoup ce que Luc Dumont a dit un jour. Il a dit... On dit souvent que toutes bonnes choses ont une fin. Je pense qu'on a déjà tous entendu cette phrase, toutes bonnes choses ont une fin. Mais il dit ceci, on ne dit jamais que toute bonne chose a un commencement, que toute bonne chose a un début. Et avec Dieu, ce n'est jamais fini. Dieu reste toujours à l'œuvre dans nos vies. Alors qu'on peut connaître un deuil, alors qu'il y a quelque chose qui est douloureux pour nous dans notre cœur, Dieu a encore un plan. Dieu, il y a quelque chose derrière pour nous qui arrive dans l'avenir. Alors que on a l'impression parfois qu'on tourne de page dans notre transition, alors qu'on a la sensation qu'il y a une page de notre vie qui vient de se tourner, qu'un chapitre de notre vie vient de se tourner. Bonne nouvelle, il y a un chapitre numéro 2 après celui qu'on vient de tourner. Et si on croit qu'on a comme un livre qui vient de se clore, bonne nouvelle, il y a un numéro 2 qui vient de sortir. Il y a un numéro 2 qui est là pour toi. Dernièrement, moi, j'ai terminé une saison, une série, et la saison 1 vient de se terminer. Et j'étais tellement déçu, je me dis, ah, dommage, j'aimais bien cette saison-là. Mais bonne nouvelle, à la fin du générique, ils annoncent une saison 2. Et c'est pareil avec Dieu, la saison vient de se terminer, mais bonne nouvelle, une nouvelle saison va commencer. Ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Une nouvelle saison est en préparation. Aujourd'hui, il ne faut pas voir uniquement cette saison comme étant une saison de deuil, comme étant une saison de perte, comme étant une saison de souffrance, mais comme étant une saison de commencement. Ce n'est pas la fin pour Daniel. Ce n'est pas la fin pour Daniel. C'est pas ni Daniel ni José. C'est pas leur fin à eux. C'est le début d'une nouvelle saison avec Bouffe Partage, avec la banque alimentaire de Bouffe Partage. Il y a une nouvelle saison qui va commencer, qui sera glorieuse, qui sera impactante pour la ville et pour l'Église. Ce n'est pas la fin de cette Église. Ce n'est pas la fin de cette Église. Ce n'est pas la fin de cette congrégation. Ce n'est pas la fin de cette famille. Ok, les choses vont changer, il y aura des nouveautés, mais ce n'est pas la fin de cette famille pour autant. Je comprends, ça peut être impressionnant de voir Nouvelle Vie, le paquebot arriver. Je comprends, vraiment, je le comprends. Mais ce n'est pas la fin de cette famille. Mes grands-parents, quand ils se sont mariés, ils ont commencé leur famille à 2. Puis ils ont eu 4 enfants. Puis ces 4 enfants se sont mariés. Puis ces 4 enfants ont eu des cousins. Je ne pourrais même pas compter le nombre de cousins et cousines que j'ai. Pour autant, ça demeure leur famille. Leur famille se multiplie. Et c'est sûr qu'ils ont dû changer leurs habitudes, changer leur façon de faire, changer leur dîner de famille quand ils sont passés de 2 à, on va dire, 30. Mais ça reste et ça demeure une famille. Si la famille grandit, c'est une bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui est bonne pour le royaume de Dieu. Peu importe la transition de ta vie actuellement, peu importe la saison qui vient de se terminer pour toi, il y en a une nouvelle qui t'attend. Dieu n'a pas terminé son œuvre pour toi. J'aime ce que Paul dit en Philippiens au chapitre 1 et au verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu, son objectif, son plan, c'est de nous amener vers l'avant. C'est de faire qu'on puisse s'améliorer, qu'on puisse grandir de jour en jour. Que nous ayons 10 ans ou 90 ans, Dieu a un plan pour chacun de nous. Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut nous amener de l'avant. Dieu a des plans à accomplir pour chacun d'entre nous. Non seulement il veut les accomplir, mais il va les accomplir. Parce que quand on regarde à Josué, Josué n'a pas pu négocier. Josué n'a pas pu demander un délai supplémentaire à Dieu. Quand Dieu est venu le voir, Josué n'a pas dit « Écoute, Dieu, donne-moi encore 10 jours, histoire que je m'en remette. » Ou « Non, je ne le sens pas ce peuple. J'ai vu comment Moïse a eu du mal avec eux. Moi, je ne veux pas le faire. Moi, je veux rester dans mon désert. Je suis bien ici. Je le connais. Je suis habitué. Je n'ai pas envie d'aller dans une zone que je ne connais pas ou que j'ai juste vu de loin à un moment donné, mais je ne veux pas aller plus loin. » Non, Dieu ne lui a pas laissé le choix. Dieu lui a dit « Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Maintenant, comme s'il disait « L'heure est venue d'entrer dans cette nouvelle saison que j'avais prévue. L'heure est venue d'entrer dans cette transition, pas comme étant une défaite, pas comme étant uniquement un deuil, mais comme étant une future victoire. » Dieu appelle Josué, comme il nous appelle aujourd'hui, à nous lever maintenant et à entrer pleinement, avec joie, avec reconnaissance, dans cette nouvelle saison, vers l'avant. Edward Greenan, vice-président de l'organisation Guidepost, a dit ceci : Le changement arrive. Si nous ne le choisissons pas, c'est lui qui va nous choisir. Et j'aime beaucoup cette citation, ça m'a fait penser à un tapis à l'aéroport. Et j'ai mis une photo parce que je ne suis pas sûr qu'on se souvienne à quoi ressemble un tapis dans un aéroport. Ça fait 2 ans qu'on n'y va plus. Donc ça ressemble à peu près à ça. Ces tapis-là servent à nous permettre d'aller plus vite. Les aéroports sont tellement longs, les passages sont tellement grands pour accéder de l'avion à la sortie qu'ils mettent ces tapis-là pour que nous puissions accéder à la sortie beaucoup plus vite. Mais il y a des personnes, moi, à chaque fois que j'ai pris l'avion, je ne comprends pas, ils arrivent sur le tapis avec leur valise, puis ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent. Et non seulement ils s'arrêtent, ils bloquent le passage, mais en plus, ils avancent tellement lentement, les gens qui ne sont pas sur le tapis les dépassent. Et ils sont là, et ils subissent juste l'avancée. Ils subissent le changement. Qui est-ce que tu veux être aujourd'hui ? Est-ce que tu veux être cette personne qui reste sur le tapis, qui subit le changement avec sa valise ? Ou est-ce que tu es celui qui veut avancer sur le tapis en disant « Non, moi je veux atteindre le plus rapidement possible la sortie parce que c'est là que Dieu m'attend, c'est là où est-ce qu'il y a la fin de cette transition ?» Qui est-ce que tu veux être ce matin ? J'ai conscience que accepter le changement, vivre le changement, vivre une transition, c'est plus difficile que juste de monter sur un tapis puis marcher avec sa valise. Je suis pleinement conscient de ça. Mais comme marcher sur le tapis nous demande un effort, vivre un changement, vivre une transition nous demande aussi un effort. Et si on n'aime pas les changements en général, si on n'aime pas les transitions en général, c'est parce que ça vient confronter nos habitudes. Ça vient confronter nos façons de faire, ça vient confronter les choses qu'on connaît, ça vient nous déstabiliser parce qu'on sort de notre zone de confort. C'est comme, quand je reprends l'exemple de ma marche tout à l'heure, quand je suis ici, tout va bien. C'est ma marche. Je me suis bâti dessus. J'ai construit des choses dessus. Je sais que le sol est solide, il ne va pas s'effondrer. Enfin, j'espère. Mais il ne va pas s'effondrer, le sol. Mais à partir du moment où je lève la jambe, je ne sais pas ce qui m'attend. J'ai quitté ma zone de confort pour aller dans une zone où est-ce que le sol va me soutenir ? Est-ce que c'est bon pour moi que j'aille là-bas ? Est-ce que je suis bien là ? Je me sens en sécurité. Là, je sors de ma zone de confort. C'est l'insécurité pour moi. C'est pour ça qu'on n'aime pas les changements. On n'aime pas les transitions. Mais il faut comprendre que nos habitudes, notre confort, ne doivent pas être notre sécurité. La seule personne, le seul endroit où nous pouvons trouver une stabilité, une confiance dans nos vies, c'est en Dieu. Il n'y a qu'en Dieu, il est notre seul espoir. Il faut découvrir ce matin qu'en lui, nous pouvons avoir confiance que lorsqu'on vit une transition, lorsqu'on est en équilibre, il est avec nous, il nous tient par la main et il ne nous laissera pas tomber. C'est pour ça que Dieu nous fait passer par des transitions. C'est pour ça que Dieu nous fait passer par des changements de vie. C'est pour ça qu'il nous pousse à vivre des changements. Parce que les transitions nous obligent à nous reposer sur Dieu quand nous allons vers l'inconnu. Dieu nous amène dans des transitions pour que nous puissions apprendre à être dépendants de lui. Et je sais que ce mot « dépendant », c'est pas vraiment à la mode aujourd'hui parce que toute la société encourage à l'indépendance, à la liberté. Mesdames, soyez indépendantes de vos maris. Messieurs, soyez indépendantes de vos femmes. Les jeunes, vite, travaillez, comme ça vous avez une voiture et puis vous allez pouvoir avoir votre indépendance. Ayez votre indépendance financière, ayez votre indépendance, ayez votre propre liberté. Soyez libres. Mais Dieu nous amène dans ces saisons de transition, de changement, pour que nous apprenions à laisser et à délaisser notre indépendance pour être dépendants à lui, pour être dépendants de lui, pour s'accrocher à lui. Je vais arriver à ma conclusion et je vais inviter mes amis les musiciens à revenir. Il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé continuer à développer et à dire, mais je ne veux pas vraiment prendre de temps aujourd'hui. Je vais continuer à aborder ces points-là la semaine prochaine et encore plus en profondeur sur des nouvelles choses, de nouvelles facettes de Dieu qu'il faut découvrir. Mais je voulais vraiment m'arrêter sur ces deux points émotionnels parce que ce sont des points émotionnels que nous vivons tous, plus ou moins. Les émotions, on les ressent, on les vit dans les transitions et il faut les accepter. J'aime beaucoup ce qu'un théologien a écrit. Dieu est aux commandes et peut transformer même les situations les plus difficiles en gains pour le royaume. Dieu peut transformer les deuils de nos transitions. Dieu peut transformer les difficultés de nos transitions en gains pour son royaume. Si nous apprenons à être encore plus dépendants de lui, si on apprend à bâtir notre vie en lui, pas en ce que le monde veut nous proposer, mais juste en lui, pas en ma stabilité, en ce que je connais, en mes finances, en les façons où j'ai l'habitude de faire, là, mon petit train-train quotidien, non, juste en lui. Apprenons à dépendre de lui. Il est fidèle. Il est fidèle. C'est un Père qui est bon, qui aime chacun d'entre nous, qui ne veut pas laisser tomber un seul de ses enfants, qui se soucie du nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Il les connaît tous. Il sait les larmes, il sait la tristesse, il sait la douleur. Et il sait aussi notre inconfort, nos façons où quand on est dans des transitions, dans des changements, où on se sent mal à l'aise. Il les connaît, il le sait. Il le sait. Josué vivait la même chose. Et Dieu lui a dit, « Je ne te délaisserai pas. Et je ne t'abandonnerai pas. » Ce matin, j'ignore les transitions par lesquelles tu es en train de passer. J'ignore même comment tu vis cette transition d'église. J'ignore les émotions que ça vient de créer en toi. Je ne vais pas t'amener à tourner tes yeux vers un pasteur ce matin, vers un programme, vers un titre, vers une... Non, je veux t'amener à tourner tes yeux vers ton Père, vers Dieu, vers ton rocher, vers ton refuge, vers ton réconfort. Peu importe tes émotions, peu importe tes peines, peu importe tes pleurs, viens à lui, il t'attend, il est juste là, il veut juste t'aider à te réconforter, à t'entourer, il est là pour toi. Si tu pleures, il est là pour te réconforter, il est là pour te donner les clés, pour te donner les ressources, pour juste t'aider à avancer. Pas juste à effacer tes larmes du jour au lendemain, mais pour t'aider à marcher, à te prendre par la main et à dire « on va y aller ensemble ». Viens déposer ton fardeau entre les mains de Dieu. Viens non seulement déposer ton fardeau, mais viens prendre en retour sa paix, sa joie. Il est Dieu et il ne veut pas t'abandonner. Bien sûr, je ne veux pas qu'on se méprend. S'il faut aller chercher de l'aide auprès d'une personne, va chercher de l'aide aussi auprès d'une personne. Mais je t'invite d'abord à faire de Dieu ton premier refuge, ton premier réconfort. Aller chercher de l'aide après avec une autre personne, c'est correct aussi. Ce n'est pas un manque de foi, au contraire. Quand on prie, quand deux personnes prient ensemble, il y a quelque chose qui se passe. Quand on vient se confier à une autre personne et qu'il a un recul nécessaire pour nous aider, cette personne-là peut être aussi utilisée par Dieu pour nous encourager dans nos épreuves. Mais avant tout, tourne-toi vers Je vais vous inviter à vous lever ce matin. Vous pouvez remettre les masques. Merci pour votre patience pour les masques. Merci pour votre patience aussi pour les distances. On sait que tout est particulier pendant cette période-là, mais merci vraiment pour votre cœur. Et si vous êtes à l'aise, je vais juste vous inviter à tendre les mains, à tendre les bras comme un signe d'abandon, comme un signe de dépendance à lui. Et je ne veux pas faire d'appel pour éviter de gêner ou de mettre mal à l'aise une personne. Mais je veux juste que pendant ce temps-là, que toute l'Église puisse prendre le temps de prier pour des personnes qui sont en train de vivre un deuil, qui sont en train de vivre juste une souffrance en ce moment. Que toute l'Église puisse se réunir ensemble juste pour prier vers le Père, pour que Dieu puisse venir réconforter celui qui a besoin d'être réconforté aujourd'hui. Pour que Dieu puisse venir encourager celui qui a besoin d'être encouragé aujourd'hui. Pour que toutes les personnes qui se sentent chargées dans leurs émotions, chargées dans leurs peines, chargées dans leur cœur, puissent trouver en Dieu une joie, une paix, une ressource. Mais je veux aussi vous inviter à prier avec foi, avec dépendance à Dieu, pour l'avenir de cette Église. Avec un sentiment de joie et de reconnaissance pour ce qu'il va faire ici, pour ce qu'il est déjà en train de faire ici, non seulement pour cette Église, mais aussi pour Bouffe Partage. Est-ce que je peux voir juste l'Église unie en Dieu, en train d'amener aussi bien ceux qui sont affligés, mais aussi en train d'amener vers Dieu les nouveaux projets, vers les nouveautés, vers cette période de transition. Bâtissons nos vies à ses pieds. Et Père, merci pour ta présence. Merci pour qui tu es. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta parole qui nous montre qui tu es. Tu es un Père qui nous aime. Tu es un Père qui se soucie de chacun d'entre nous. Tu connais les cœurs. Tu connais les faiblesses de chacun. Tu connais les difficultés. Je te demande juste d'apporter une paix unique ce matin. Dans le cœur, dans la vie des gens, dans la vie de personnes qui sont en train de vivre un deuil, une souffrance, une peine. Je te prie, Jésus, que tu puisses souffler sur eux un vent d'espoir, un vent de joie, un vent d'espérance qui puisse non seulement, certes, ok, peut-être qu'ils vivent une période de deuil, de souffrance, mais qu'ils puissent juste te regarder à toi et voir qu'il y a une lumière au bout de ce tunnel par lequel ils sont en train de passer. Merci, Jésus, pour cette église. Merci, Père, parce que c'est toi qui l'as fait croître, c'est toi qui l'as fait grandir, c'est toi qui es l'œuvre dans tout ça. Je te prie, Seigneur, pour l'avenir de cette église, pour l'avenir de cette congrégation, que l'esprit de famille, que l'esprit de joie, que l'esprit d'accueil puisse demeurer et se développer encore plus pour atteindre les nouvelles personnes, pour atteindre les personnes qui ne connaissent pas ton nom. Et je te prie aussi pour Pouf Partage, Père. Merci pour cette banque alimentaire. Merci parce qu'elle rayonne dans cette ville. Merci pour toutes les personnes qu'elle rejoint. Merci pour toutes les personnes qui sont aidées au travers de cette œuvre. Je prie que tu puisses continuer à le faire développer, que tu puisses continuer à le faire grandir, que tu puisses continuer à faire croître cette œuvre, Seigneur. Nous bâtissons notre vie sur toi. Nous bâtissons notre vie, notre espoir, notre avenir sur toi. Nous bâtissons tout ce que nous sommes entre tes mains. Tu es notre fondement inébranlable. On sait que même si on lève la jambe, même si on est en déséquilibre, tu es ce fondement inébranlable et en toi seul, on peut compter, Jésus. Alors, viens nous révéler encore plus qui tu es. Viens nous montrer encore plus qui tu es. Déverse-toi sur chaque personne ce matin. Que ton nom soit élevé, Père, et que toute la gloire, l'honneur, la louange te reviennent, car tu es vivant, car tu es ressuscité, car tu es le roi des rois. Et merci pour ta grâce, merci pour ton nom, merci pour ton sang, merci pour qui tu es, Jésus. À toi la gloire, mon Père.